Bonjour Géraldine, bonjour à tous. En Sibérie, les médecins d'Alexeï Navalny, principal opposant au Kremlin, sont pour l'instant opposés à son transfert dans un autre établissement. L'avocat de 44 ans a été, on le rappelle, victime d'un malaise et il est en réanimation. Ses proches accusent le Kremlin d'empêcher son évacuation vers l'Allemagne. Ils affirment également toujours qu'il a été victime d'un empoisonnement, mais les médecins n'ont pas retrouvé de poison dans son organisme. Précision à suivre de Claude Bruyot. En France, pas de report de la rentrée scolaire, mais des masques obligatoires en classe dès le collège. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Ces masques ne seront pas fournis par l'État, ils seront une fourniture scolaire comme une autre. C'est une erreur pour Didier Georges, qui est membre du syndicat de proviseurs SNPDEN, UNSA, nous l'entendrons. Une mission d'inspection pour renforcer la prévention du suicide en prison est lancée à partir d'aujourd'hui par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Le rapport devra être remis au 1er décembre et formuler des recommandations. D'après l'Observatoire international des prisons, les détenus se suicident 6 fois plus que la population générale. Mathieu Laurent nous en dira plus. Nous ne croyons pas qu'il ait souffert d'un empoisonnement. Tels sont les mots du vice-directeur de l'hôpital où est actuellement soigné Alexeï Navalny. On rappelle que l'opposant numéro 1 au Kremlin a fait un malaise dans un avion. Il est actuellement placé en réanimation et relié à un respirateur artificiel. Ses proches se disent persuadés qu'une substance a été glissée dans son thé. Mais Claude Bruyot, selon les médecins, aucun poison n'a été découvert dans son organisme.
Les médecins sur place à Omsk semblent sûrs de leurs faits. Ils ont néanmoins envoyé à Moscou des échantillons afin d'effectuer des analyses complémentaires. Mais alors que l'avion allemand a atterri donc à Omsk dans le but de rapatrier Alexeï Navalny vers l'hôpital de la Charité à Berlin, les praticiens russes disent deux choses. Ils ont besoin de 48 heures supplémentaires pour établir un diagnostic plus détaillé. Et Alexeï Navalny n'est pas transportable à cause notamment de l'altitude qui pourrait entraîner une baisse de tension très dangereuse chez un patient dans le coma et sous respirateur. L'entourage de l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, reste sur ses positions, à savoir, premièrement, un transfert en urgence est obligatoire, en rappelant le Kremlin à sa promesse d'hier de faire le nécessaire pour favoriser cette démarche, et se fait fort d'ailleurs de l'obtenir en saisissant la Cour européenne des droits de l'homme. Et deuxièmement, il y a bien eu empoisonnement intentionnel. Leonid Volkov, le lieutenant d'Alexeï Navalny, évoque même un refus de transfert de nature politique et non médicale, précisant, je cite, que l'objectif est d'attendre que les produits toxiques cessent d'être détectables dans l'organisme du leader de l'opposition russe.
Et on apprend à l'instant que l'Union européenne demande que Navalny soit rapidement transféré en Allemagne pour être soigné. Elle demande également qu'une enquête soit menée sur les soupçons d'empoisonnement. Des représentants de l'ONU ont pu rencontrer le président malien déchu Ibrahim Boubacar Keïta et les autres personnalités détenues par la junte qui s'est emparée du pouvoir au Mali cette semaine. Un responsable affirme aujourd'hui que le ministre de l'économie et le secrétaire particulier du chef de l'État ont été libérés. Les militaires de leur côté affirment détenir encore 17 prisonniers. En Turquie, après la basilique Sainte-Sophie, c'est une autre ancienne église byzantine d'Istanbul, et non des moindres, qui sera transformée en mosquée. Il s'agit de l'église Saint-Sauveur Inkora, qui était un musée depuis 75 ans. Elle est officiellement redevenue mosquée, donc ce vendredi, sur décision du président turc Recep Tayyip Erdogan. À Istanbul, les précisions d'Anand Loer.
Alors que le pouvoir turc avait mis en scène et médiatisé la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée, le sort de Saint-Sauveur Inkora s'est décidé de manière beaucoup plus discrète par une simple publication au journal officiel de ce 21 août. On y apprend que l'édifice, une église byzantine érigée au XIe siècle, devenue mosquée en 1511 après la conquête ottomane, puis transformée en musée en 1945, revient au culte musulman sur décret du président Recep Tayyip Erdogan. Les autorités turques justifient leur geste par une décision du Conseil d'État de novembre 2019 qui invalidait la transformation de ce monument en musée. L'association à l'origine de la plainte était d'ailleurs la même que celle qui avait réclamé en justice la réislamisation de Sainte-Sophie. En Turquie, à l'étranger, Saint-Sauveur Inkora n'a certes pas l'importance symbolique de la Grande Sainte-Sophie, mais elle figure, elle aussi, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et ses fresques et mosaïques, couvertes de lecho à l'époque ottomane, sont parmi les plus belles et les mieux préservées du monde. Avec la reconquête de cet autre symbole, Recep Tayyip Erdogan, affaibli politiquement par la crise économique qui frappe le pays, tente par tous les moyens d'endiguer l'effritement de sa base conservatrice. Mais il prend aussi le risque d'attiser encore un peu plus les tensions avec l'Occident, notamment la Grèce, avec laquelle il a engagé ces derniers mois un bras de fer sur le partage des ressources d'hydrocarbures dans l'est de la Méditerranée.
Anne Handlauer. C'est une affaire qui fait beaucoup de bruit en Israël, le viol présumé d'une adolescente de 16 ans par une trentaine d'hommes dans une chambre d'hôtel alors qu'elle était en état d'ébriété. Les faits se seraient donc déroulés la semaine dernière dans la ville d'Elat, station balnéaire située sur la mer Rouge. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Alors cette affaire émeut vraiment beaucoup dans le pays. D'ailleurs les réactions politiques sont déjà très nombreuses.
Oui, réaction politique et populaire. Hier soir, plusieurs centaines de personnes ont manifesté en Israël en criant « Je te crois » ou « Tu n'es pas seul ». Les manifestants demandent aussi des budgets décents pour lutter contre les violences sexuelles, prévention, éducation, centre d'accueil pour victimes, formation des policiers. Selon les associations féministes, il faut passer des mots aux actes, car hier, les mots ont été forts. Benjamin Netanyahou parle de crimes contre l'humanité. Le chef de l'opposition centriste Yair Lapid dénonce les sales raclures. La leader d'extrême droite Ayelet Shaked des animaux. De tout cœur avec cette jeune fille, mon sang bouillonne, écrit le député arabe Ayman Odeh. Autant de réactions à une affaire sordide. Deux suspects de 27 ans ont été arrêtés et selon l'un de leurs avocats, une trentaine de violeurs présumés auraient tranquillement patienté dans un couloir de l'hôtel, un peu comme à la poste ou à la caisse d'un supermarché, avant d'abuser de leurs victimes dans une chambre. L'enquête continue, mais en Israël, 8 plaintes pour viol sur 10, 8 plaintes sur 10 sont classées sans suite, et dans celles qui continuent leur cheminement, encore 8 sur 10 se concluent par un plaidé coupable sans procès, et souvent, le viol est requalifié en violence sexuelle. Ce qui reste se termine en procès. Lors de ces affaires, la victime ne participe pas à la procédure, il n'y a pas de partie civile, tout se passe entre le procureur qui représente l'État et l'avocat de la défense qui représente le suspect. Au bout du bout, en Israël, 1 à 2% des hommes soupçonnés de viol sont condamnés à l'issue d'un procès.
Merci à vous Frédéric Mettezo. Les discussions sur le Brexit dans l'impasse, une 7e session de négociations sur les relations entre Londres et l'Union européenne n'ont pas donné d'avancée significative. Le négociateur en chef Michel Barnier s'est dit déçu et préoccupé. De son côté, le Royaume-Uni accuse l'Union de rendre les échanges inutilement difficiles. Un accord doit être trouvé fin octobre au plus tard, on le rappelle. Au Royaume-Uni, toujours pour la première fois, la dette publique dépasse le seuil des 2000 milliards de livres. Il s'agit bien sûr d'une conséquence du coût des mesures d'aide à l'économie déployées ces derniers mois pour affronter les conséquences du coronavirus. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministre des Finances Rishi Sunak prévient que des décisions difficiles devront être prises prochainement pour remettre sur rail les finances publiques. Il ne donne pas plus de précisions. À Pékin, il n'est plus obligatoire de porter le masque à l'extérieur. La capitale chinoise assouplit donc son dispositif visant à contrer la propagation du Covid-19. La ville n'a en effet pas recensé de nouvelles contaminations au cours des 13 derniers jours. Il n'a pas respecté les mesures barrières et donc il démissionne. Le ministre irlandais de l'Agriculture, en poste depuis seulement un mois, quitte ses fonctions, ceci après des révélations sur sa présence à un dîner organisé par le club de golf du Parlement avec plus de 80 personnes. Le Premier ministre irlandais Martin a accepté cette démission, évoquant une erreur de jugement à un moment où la population fait des sacrifices personnels très difficiles pour respecter les règles liées à la Covid-19. En France, la rentrée scolaire aura bien lieu, même si des exceptions locales pourront être envisagées. Ce sont les propos tenus hier par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui était invité sur France 2. Il a donc exclu un report du retour à l'école, malgré le rebond des contaminations à la Covid-19. En revanche, le port du masque au collège et au lycée devra être systématique, dit-il, dans les espaces clos, même quand les règles de distanciation physique pourront être respectées. Le ministère va fournir les masques aux professeurs. En revanche, pour les élèves, il s'agira d'une fourniture scolaire comme une autre, donc à la charge des familles. Il s'agit là d'une erreur pour Didier Georges. Il est principal à Paris et membre de l'exécutif national du syndicat de proviseurs SNPDEN UNSA. On l'écoute.
Je pense que dans l'idéal, il aurait fallu effectivement fournir les masques, y compris aux élèves, notamment quand on est en éducation prioritaire et quand on est en Île-de-France et dans certains territoires, on a des situations d'extrême grande pauvreté. Et c'est pas l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire d'une centaine d'euros qui va complètement régler le problème de pauvreté des gens. Mais donc le coût des masques est quand même encore important, d'autant plus qu'il va falloir le changer toutes les 4 heures. Et si nous étions nous-mêmes le fournisseur de masques, je pense qu'il aurait été plus facile pour nous de contrôler ce changement. Et je suis pas virologue, je suis pas épidémiologiste, mais j'ai cru quand même comprendre qu'il était fondamental de changer son masque toutes les 4 heures. Puisqu'après, il se charge et qu'il ne produit plus les résultats escomptés. Donc, moi, je ne sais pas, à cette heure-ci, dans quelle mesure un élève sera dans le respect des consignes sanitaires nationales qui s'applique à tout à chacun, puisque je ne sais pas s'ils pourront changer leur masque entre midi et deux, s'ils viendront tous avec deux masques, même un problème tout simple, hein, est-ce que le masque est lavé le soir? Si je suis très pragmatique, je n'ai aucun moyen de vérifier qu'un masque a été lavé. Et quand on a 12, 13, 14 ans, et ben c'est peut-être pas la pensée principale des élèves. En plus, ils vont être très contents de se retrouver pour la majorité d'entre eux, après ces deux mois de coupure d'été. Je vais faire aussi un peu une réponse hypocrite, c'est-à-dire que nous, on aura fait le job, on leur aura dit ce qu'ils doivent faire, et puis chacun le fera ou pas.
Propos recueillis par Maxime Fayol. Des salariés du sous-traitant aéronautique Simra, installés à Albert dans la Somme, bloquent depuis hier la sortie de produits finis du site. Ils veulent ainsi exprimer leurs inquiétudes sur l'emploi dans un secteur très éprouvé par l'épidémie de coronavirus. Une rencontre devait se tenir aujourd'hui avec la direction des ressources humaines. Prévenir le suicide en prison, c'est l'objectif d'une mission d'inspection lancée à partir d'aujourd'hui par Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. La mission doit également éclaircir les circonstances dans lesquelles un détenu des Baumettes s'est donné la mort au début du mois. Cet ex-enseignant atteint de dépression était en détention provisoire depuis un mois car il était accusé d'avoir crevé les pneus de sa kinésithérapeute à 7 reprises. D'après l'Observatoire international des prisons, l'OIP, les détenus se suicident 6 fois plus que la population générale, Mathieu Laurent.
À l'origine de cette mission, c'est relevé. Entre le 1er janvier et le 17 août, 77 personnes se sont suicidées en prison. C'est 17 de plus que l'année dernière sur la même période. L'OIP accueille favorablement l'initiative, non sans rappeler la priorité. Développer la prévention primaire. François Besse est coordinateur du pôle enquête à l'OIP.
Tous les programmes de prévention du suicide qui ont été mis en place jusqu'à présent tournent essentiellement autour du fait ou de la volonté d'empêcher les gens de passer à l'acte. C'est-à-dire finalement, quelque part, on attend qu'ils soient dans une situation de risque suicidaire pour prendre des mesures qui vont être des rondes rapprochées, des pyjamas en papier, on leur enlève toutes leurs affaires, etc. Et ce qu'il faut vraiment travailler maintenant, je pense, c'est la prévention primaire qui consiste à, en amont, créer des conditions pour que les personnes ou aillent moins mal ou ne sombrent pas dans, effectivement, dans un état suicidaire.
Entre autres remèdes à considérer, la socialisation en prison grâce aux activités, ce dont ont été privés les détenus lors du confinement, un confinement au cours duquel les soignants, en sous-effectif, ont paré au plus pressé. François Besse.
On a eu énormément d'appels de personnes extrêmement angoissées, extrêmement inquiètes et qui allaient vraiment très mal parce qu'elles ne voyaient plus leurs proches au parloir. Tout a été concentré sur la vigilance Covid-19, mais le manque de soignants, il existait déjà avant la période du confinement. Et ça, de toute façon, ça joue et on le voit dans les chiffres.
Le rapport de cette mission d'inspection sera remis au garde des Sceaux et au ministre de la Santé le 1er décembre.
Mathieu Laurent. Partons maintenant dans les vignes françaises où le réchauffement climatique est particulièrement perceptible. Les vendanges sont précoces dans tous les vignobles. Le premier jour de récolte a avancé de 20 jours en moyenne en 25 ans. Alors Palme, cette année attribuée à la Bourgogne, le premier viticulteur à sortir le sécateur, l'a fait le 13 août. Conséquence, le vignoble et les vignerons doivent se renouveler. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour Ilan.
C'est un véritable défi technique et économique.
Oui, parce que certains cépages souffrent terriblement, comme le pinot noir par exemple, parce que les maladies se développent aussi. Écoutez ce qu'en dit un viticulteur du Mâconnais, Olivier Fichet, à IG.
Tous les ans, sur 36 hectares, on replante l'équivalent d'un hectare quasiment, en pied de changement seulement. D'accord. Donc c'est énorme, c'est des coûts de production qu'on n'avait pas il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, il n'y a aucun remède.
Un résultat, chaque année, le vignoble bourguignon augmente d'une centaine d'hectares, mais le rendement baisse, donc les vignerons sont obligés de penser différemment. Thibaut Hubert est viticulteur à Meursault, il est aussi le président de la Confédération des appellations et vignerons de Bourgogne.
Les vignes qu'on amortissait sur 30 ou 40 ans, et aujourd'hui il faut qu'on les amortisse sur 10 ans parce qu'on ne sait même pas si elles vont tenir ces 10 années, vu les conditions climatiques. Tout ça, il nous faut des outils fiscaux, donc il faut qu'on travaille aussi avec le gouvernement. Il faut qu'on puisse réétalonner complètement le financement de ces plantations. Donc voilà, aujourd'hui on n'a encore pas la solution, on y travaille avec toute la filière et tous les acteurs de la filière pour essayer de pérenniser nos exploitations.
Et c'est aussi un défi technique, il faut travailler sur ce qu'on appelle les porte-greffes, créer des variétés de cépages plus résistante. Un programme national existe, le programme RESDUR pour résistance durable, mais il n'y aurait pas d'avancée notable adaptée au vignoble bourguignon. Pour Thibaut Hubert, on a trop tardé à faire de véritables recherches là-dessus.
On ne l'a pas ciblé. Il y a eu des recherches, hein, mais aujourd'hui, les recherches, elles sont financées par des industriels. Et donc, ça s'est fait beaucoup sur le produit phytopharmaceutique, la protection du vignoble. Pas forcément sur le végétal en lui-même. Et c'est là qu'il faut qu'on recentre un peu la recherche aujourd'hui viticole. L'urgence, maintenant, il est sur le plant de vigne.
L'horizon des recherches appliquées est à 2030, autant dire que c'est très loin pour les viticulteurs.
Merci à vous Nicolas Balu. Ciel mitigé aujourd'hui, globalement ensoleillé, mais on attend quelques ondées, notamment en Bretagne, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. Côté température, ce sera compris cet après-midi entre 20 à Brest et 35 à Lyon. Cette édition a été préparée avec Nathalie Lopez. Elle a été réalisée à la technique par Adèle Caglard.